Les enfants de Chronos. Bonjour à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, moi, Nicolette Bilot, archéologue, vais vous présenter le château de Montépilloy. La gardienne du Valois, la tour de Gannes, la belle endormie. La grande tour du château de Montépilloy n'a pas manqué de surnom depuis 2 siècles. Et pourtant, voici bien un château qui ne se résume pas uniquement à l'étrange silhouette du donjon éventré qui domine le pays de Senlis. Depuis Viollet-le-Duc, les plus grands spécialistes de l'architecture médiévale se sont intéressés à la question des parties anciennes du château de Montépilloy. Et quelques bons historiens ont aussi œuvré à en reconstituer l'histoire. Plus récemment, un archéologue, votre serviteur aujourd'hui, y a apporté un regard complémentaire grâce à un travail universitaire, puis à une fouille archéologique. Y a-t-il donc tant de choses à dire à propos de ce site? Eh bien oui. Le château de Montépilloy est une des plus anciennes et des plus importantes résidences du lignage des Bouteillers de Senlis. Une puissante famille de seigneurs du Senlisy, dont l'ascension, à partir de la fin du XIe siècle, se résume presque à une seule chose. Une fidélité indéfectible au roi de France, qui en échange de cette fidélité les récompense progressivement. L'apogée de la famille des Bouteillers de Senlis est à situer au XIIIe siècle. Revenons au château. Il y a d'abord eu, à Montépilloy, une motte castrale au pied de la colline. Vous savez, ces châteaux de terre et de bois dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises. Puis, dans la seconde moitié du XIIe siècle, remplace cette motte un château qui cette fois s'installera au sommet de la butte sur un petit éperon et qui, immédiatement, s'étale sur près d'un hectare si l'on compte la surface des fossés secs qui l'entourent. Le village naît environ en même temps, au pied de la résidence seigneuriale. Dans le château, plusieurs éléments se démarquent les uns des autres. Alors tout d'abord la tour maîtresse, le donjon, comme l'on dit. Large de 17,50 m, haute de 32 mètres à l'origine et de 37,50 m aujourd'hui, et ce depuis le XVe siècle, elle a la particularité d'être éventrée de haut en bas. Mais elle a l'autre particularité d'être conservée jusqu'à son sommet sur la partie en élévation. C'est assez curieux comme forme, mais c'est essentiel pour pouvoir l'étudier. Pour l'anecdote, figurez-vous que si l'on ajoute la hauteur de la tour à la hauteur de la butte naturelle de Montépilloy, les créneaux du donjon sont plus hauts que la flèche de la cathédrale de Senlis. Le château de Montépilloy est ainsi le point haut de ce territoire. Sans entrer dans le détail, la tour de Montépilloy, qui date aux 2/3 de la fin du XIIe siècle et pour le tiers restant du début du XVe siècle, notamment le couronnement, est un concentré de technologies architecturales. Rien que sur la porte d'entrée ou la plateforme sommitale, nous pourrions passer une heure à détailler point par point son architecture et je vous l'assure, sans s'ennuyer. Retenez simplement que, dans son état définitif, la tour présentera 7 niveaux, c'est-à-dire dans l'ordre, une cave, une cuisine avec un puits intégré, le rêve de toute bonne ménagère du Moyen-Âge, une haute salle publique de réception, puis 3 niveaux de chambres successifs et un toit-terrasse qui offrait un point de vue de là-haut jusqu'à Chantilly vers l'ouest et Villers-Cotterêts vers l'est, jusqu'à près de 40 km de visibilité du haut de la tour. Signalons ensuite le majestueux châtelet d'entrée, signature du château de Montépilloy, pour qui le découvre en se promenant dans le village. Il date du deuxième quart du XIIIe siècle et présente, au moins dans sa forme générale, une caractéristique que nous avons déjà évoquée plusieurs fois à ce micro, à savoir une porte charretière qui est encadrée, flanquée, devrait-on dire, de 2 tours circulaires. Les 2 tours circulaires à Montépilloy font à peu près 6,50 m de diamètre et sont hautes de près de 14 mètres, sans la toiture. C'est donc une disposition typique de cette architecture philippienne dont nous avons déjà beaucoup parlé. Un petit point tout de même à ne pas oublier, à l'origine, cette entrée n'est bien entendu pas précédée d'un joli pont pavé comme aujourd'hui, mais bien plutôt d'un lourd pont-levis qui enjambe le fossé. Une étude ciblée d'archéologie du bâti nous a fait découvrir, en 2011, donc tout récemment, un logis du XIIIe siècle, ou plus probablement du début du XIVe siècle, dans l'angle sud-est du site. Et oui, en histoire et en archéologie, on découvre encore des choses chaque jour. Mais je passe le point de ce logis ici, car il n'en reste que des indices minces, et vous ne pourriez pas les voir en allant sur le site. Mais ce que vous ne pouvez pas rater, c'est un autre logis, celui qui est bâti en remplacement du précédent au début du XVe siècle. Il est bâti en même temps, nous l'avons dit, que la tour maîtresse est rehaussée. En plein cœur de la guerre de Cent Ans donc, alors que la guerre civile éclate et qu'elle s'ajoute à la guerre contre l'Anglais. Eh bien l'avant-dernier bouteiller de senlis seigneur de Montépilloy, Guillaume II, initie un ambitieux programme architectural. L'homme est riche, instruit, puissant, et il orbite dans la plus grande cour princière du moment, celle du duc de Valois-Orléans, Louis Ier, frère de roi, fils de roi, oncle de roi. Autant dire que notre homme, Guillaume II, connaît bien les châteaux déjà évoqués ici, de Pierrefonds et de La Ferté-Milon. Mais qu'il connaît aussi tous les autres plus beaux palais de ce temps, le grand château royal de Creil, le château royal de Vincennes, que vous pouvez encore visiter, l'ancien château de Chantilly, pas l'actuel, mais celui de la fin du Moyen-Âge, le puissant château de Coucy dans l'Aisne, etc. Et Guillaume II s'inspire de tous ces sites. Et, à l'échelle de ses moyens, hein, lui n'est pas roi de France ou prince de sang, il fait tout de même bâtir un très beau logis qui allie les nécessités militaires du temps et son envie de confort. C'est la transition quelque part dans l'architecture entre le château médiéval et le palais de la Renaissance. Mais voilà, à cause de la reprise de la guerre, avec laquelle coïncide malheureusement le chantier de construction, l'œuvre de Guillaume II restera inachevée. Le logis ne sera pas terminé, les planchers par exemple ne seront même pas posés. La nouvelle tour qu'il fait construire ne sera jamais logeable, en tout cas pas noblement, comme on aurait dit alors. Et la grande galerie à pans de bois qu'il avait prévue restera à l'état de projet. Triste sort, vous allez me dire, oui, mais pour les chercheurs, il s'agit tout de même d'un ensemble remarquable, avorté en cours de chantier, ce qui le rend presque plus intéressant encore. Il est majeur même du point de vue de l'architecture seigneuriale en France du Nord. Ce chantier est aujourd'hui bien connu par les chercheurs, même s'il n'est malheureusement pas toujours bien compris, même par les plus grands spécialistes actuels. Terminons en précisant pourquoi le château de Montépilloy est en ruine. En effet, cela ne va pas de soi. D'autant que le château n'a véritablement subi qu'un seul siège dans son existence, et qu'il n'a jamais été abandonné, jamais brûlé, qu'il n'a pas connu de séisme, qu'il n'a pas connu de malfaçon. Bref, rien de ce qui crée une ruine habituellement. Alors cette ruine est en fait bien plus originale. Sa cause, c'est l'ordre du roi de France, Charles VII, qui ordonne, suite à une plainte des habitants de Senlis, de le faire démanteler, de le faire éventrer, en même temps que d'autres châteaux du pays de Senlis, Mont-l'Évêque ou Thiers-sur-Thève, dont nous avons déjà parlé. Mais les autres ont été reconstruits, alors que Montépilloy, lui, deviendra une ferme. Et cette ferme, comme à Nelandol, dont nous avons déjà parlé, cristallisera les vestiges médiévaux, ce qui est une chance pour les visiteurs d'aujourd'hui. Allez, clôturons cette notice par quelques faits célèbres et quelques poncifs à rabattre, dont, si je ne parle pas, vous me reprocherez quelque chose. Alors non, Jeanne d'Arc n'a pas dormi au château de Montépilloy, même si la plaque apposée sur l'église au début du XXIe siècle, hein, tout récemment, l'affirme. Et je viens de vous l'expliquer, la brave Jeanne, lorsqu'elle passe en 1429 par Montépilloy, car elle en y est passée, ça oui, ne peut pas résider au château, il est inachevé. Et en plus, il est aux mains de l'ennemi, quand même un autre petit détail à prendre en compte. De même, la bataille de Montépilloy n'a pas eu lieu. Bon, les deux armées, françaises et anglaises, se sont bien fait face dans les plaines entre Montépilloy et Mont-l'Évêque par une chaude journée du 15 août 1429. Mais les deux camps refusent de combattre, ils se toisent toute la journée sans conférer ou presque. Puis, le lendemain matin, Assommés par la chaleur, ils tournent les talons et rentrent respectivement à Senlis pour les Anglais et à Crépy pour les Français. Par contre, oui, Antoine de Chabannes, celui dont nous avons parlé à plusieurs reprises, notamment pour Dammartin, qui était peut-être à cette fausse bataille, il a été sire de Montépilou. Et ce terrible Antoine de Chabannes, il semble qu'il ait apprécié le château, malgré son état de ruine relative déjà à cette époque. Et puis on va y trouver d'autres personnages dont on parle souvent, notamment Anne de Montmorency, lui encore, le connétable de François Ier, celui dont nous avons déjà parlé. Lui et ses successeurs s'intéresseront en fait peu au site. Ce qui les intéresse, c'est la forêt de Montépilloy, le bois, et surtout les revenus de la terre de Montépilloy. Et c'est pour gérer ces revenus que lui et ses successeurs feront installer une série de belles bornes sur le territoire de la seigneurie que vous pourrez encore admirer en vous promenant dans le village. Je vous y invite à le faire au plus vite.